Bonsoir à tous. Donc, j'ai décidé d'intituler cet exposé plutôt l'analyse logique du langage, donc en conformité avec le titre de l'article que vous avez sans doute sous les yeux, plutôt que comment se construit une phrase. Et la raison est la suivante, c'est que la question comment se construit une phrase est une question qui serait sans doute mieux traitée par des syntacticiens, des spécialistes de la syntaxe des langues naturelles. Et ce que je prétends faire aujourd'hui, c'est plutôt vous donner, l'esquisse d'une réponse à cette question, comment se construit ou comment est construite une phrase, du point de vue de la logique, c'est-à-dire quelle contribution la logique peut fournir à l'étude de la syntaxe des langues naturelles, mais aussi de la sémantique, c'est-à-dire la syntaxe de ce qui a trait donc à la construction des phrases, à l'analyse des phrases en constituant, et pour ce qui est de la sémantique, quelle contribution à l'interprétation qu'on peut faire du sens des phrases. Donc c'est la question générale que je pose, quel éclairage la logique peut-elle apporter à l'étude du langage naturel, et plus précisément, dans quelle mesure les langues naturelles peuvent-elles être traitées comme des langages logiques. Donc si vous regardez cette deuxième question, c'est une question qui est beaucoup plus précise en un sens que la première, dans quelle mesure les langues naturelles peuvent-elles être traitées comme des langages logiques. Et il y a des réponses contradictoires que j'examinerai dans cet exposé. Donc, Bénédicte Leclerc a nommé un certain nombre de figures donc sur les analyses desquelles je vais venir dans cet exposé. Il y a deux grandes réponses à cette question qui m'intéressent. La première, c'est la réponse, je dirais, classique, la réponse qui, s'impose à partir de la fin du XIXe siècle, lorsque la logique mathématique se constitue en rupture avec l'héritage d'Aristote. Frege, Gottlob Frege et Russell, contribuent à la thèse selon laquelle la logique fournirait un langage artificiel en rupture avec le langage ordinaire. Et bien sûr, je préciserai en quel sens cette assertion est vraie, parce qu'il y a bien sûr un sens dans lequel cette assertion est fausse, mais on peut dire qu'à partir des années 50, au moment où la linguistique devient une discipline mathématique, une discipline formelle, c'est un renversement de cette thèse qui s'impose, c'est-à-dire que les langues naturelles sont fondamentalement considérées comme des langages logiques. Cette thèse est en particulier défendue par Chomsky et par Montague. Et on peut préciser la manière dont cette thèse s'impose. Montague écrit en particulier dans un article de 1970, qui est écrit un an avant sa mort, un article qui s'intitule « Grammaire universelle »,« Universal Grammar ». « Il n'y a selon moi aucune différence théorique importante entre les langues naturelles et les langages artificiels des logiciens. En effet, écrit-il, je considère possible de rassembler la syntaxe et la sémantique des deux genres de langage au sein d'une seule et même théorie naturelle et mathématiquement précise. » Sur ce point, je diffère d'un grand nombre de philosophes, mais je suis en accord, je crois, avec Chomsky et ses associés. Alors, pour bien préciser le contexte dans lequel s'inscrit la remarque de Montague, sachez que Montague, si vous n'en avez jamais entendu parler, Montague est un logicien qui est un élève de Tarski, d'Alfred Tarski, logicien polonais. Et Montague est mort prématurément en 1971, et on peut dire que c'est l'époque où il donne l'essentiel des contributions qui deviendront décisives pour ceux qui aujourd'hui travaillent en sémantique formelle, donc dans l'étude de la théorie formelle de la signification. Et ses travaux se font en Californie, il est professeur à UCLA à l'époque, et Chomsky a commencé une décennie, je dirais, avant Montague, a ouvert le champ d'études mathématiques de la linguistique, en particulier dans le domaine de ce qu'on appelle la syntaxe générative. Il le fait au MIT, où il enseigne encore aujourd'hui. Et ces travaux sont des travaux qui, dans une certaine mesure, seront considérés longtemps comme antagonistes avec ceux de Montague. Donc ça aide à donner du relief à la citation même que j'ai donnée de Montague, c'est-à-dire que syntaxe et sémantique formelle sont en quelque sorte considérées comme deux entreprises bien distinctes, et il faut attendre les années, 90, je dirais fin des années 80, années 90, pour que la syntaxe formelle et la sémantique formelle convergent. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que Montagu a bien raison de souligner, lui-même était sceptique à l'égard des travaux de Chomsky, je dirais de quelle façon, mais l'un comme l'autre adhère à un idéal ou un projet qui est celui de mettre en place une grammaire universelle. Et cette notion de grammaire universelle, c'est l'idée d'une grammaire, une architecture grammaticale qui serait sous-jacente à l'ensemble, ou à chacune plus exactement, des langues naturelles, quelles que soient les différences, je dirais, phonologiques et phonétiques du point de vue de la production sonore, de ce qu'on peut reconnaître comme étant un langage. Donc une grammaire qui serait sous-jacente, commune, à l'ensemble de ces langues, indépendamment de leurs différences. Et par ailleurs, l'exploration de cette notion de grammaire universelle est censée et se faire dans le cadre de l'exploration de grammaire formelle. C'est-à-dire, c'est à l'aide de grammaire formelle que, pour Chomsky, du moins le Chomsky des années 50 et 60, et pour Montagu, on parviendra à l'explicitation de cette notion de grammaire universelle. Et pour bien comprendre la manière dont Montagu comme Chomsky procèdent, il faut avoir une idée de l'arrière-plan de leurs travaux. De ce point de vue, on peut dire que l'un comme l'autre sont des héritiers d'une grande tradition qui les précède. Et d'abord, dans le cas de Montagu, donc même si Montagu va en quelque sorte renverser l'approche ou la conception que Frege pouvait avoir du langage ordinaire, de la langue naturelle, c'est d'abord l'héritier de Frege, Gottlob Frege, qui est, on peut considérer, le principal artisan de la... principal créateur, en quelque sorte, de la logique formelle contemporaine. Frege écrit en 1882, dans un texte qui s'intitule « Que la science justifie le recours à une idéographie », « La langue n'est pas régie par des lois logiques telles que l'observance de la grammaire puisse suffire à garantir la rigueur formelle du cours de la pensée ». Et c'est en ce sens que je présentais cette conception frégéenne du langage ordinaire comme opposée à la conception montagovienne, celle de Montagu. Mais en réalité, il faut entendre la conception cette assertion de Frege, comme une assertion qui est posée en rupture avec l'héritage d'Aristote, puisque nous le verrons, la logique frégéenne renouvelle considérablement la logique aristotélicienne qui, pendant plus de 20 siècles, a, constitué un paradigme dans le champ d'enquête de la logique. D'un autre côté, la logique d'Aristote constitue la première théorie de la structure logique des énoncés. On peut dire, c'est de ce point de vue-là que je vais en quelque sorte faire les choses à l'envers. C'est-à-dire d'abord vous présenter, surtout si vous n'avez jamais entendu parler de logique, ce que je présuppose dans cet exposé, vous donner des éléments sur la conception aristotélicienne du langage, et en particulier de la structure des phrases. En venir ensuite à la critique qu'en fait Frege et... là aussi à la réexposition, la refondation qu'il propose de la logique formelle, pour voir de quelle manière ensuite la grammaire générative avec Chomsky et la grammaire de Montagu permettent de répondre à la question quelle est la structure d'une phrase, du langage naturel. Donc je commence par la question qu'est-ce que la logique ? Donc je présuppose une fois de plus que vous n'avez jamais entendu parler de logique et je dirais qu'est-ce que la logique ? Donc une manière de répondre à la question, c'est de regarder des exemples. Donc, aborder la question sur des exemples, considérons deux inférences. Donc, la logique s'occupe des inférences, c'est-à-dire des raisonnements qu'on peut faire en langage ordinaire. Premier exemple d'inférence, une inférence qui est une inférence valide, c'est-à-dire telle que la conclusion ici, tous les philosophes sont mortels, suit de tous les hommes sont mortels et de tous les philosophes sont des hommes. Donc, à quoi s'intéresse la logique ? Rendre compte de ces inférences qui sont valides, mais aussi d'inférences qui ne seraient pas logiquement valides, comme l'inférence de « tous les philosophes sont savants et quelques savants sont heureux » à « quelques philosophes sont heureux ». Pourquoi cette seconde inférence n'est pas valide ? Si vous regardez ce schéma, donc ce sont les cercles de l'air qui donnent une représentation ici de la première inférence. Donc, tous les philosophes sont des hommes, l'extension du prédicat est incluse dans l'extension de ce prédicat, l'ensemble des philosophes est inclus dans l'ensemble des hommes. Et par conséquent, comme l'ensemble des hommes lui-même est inclus dans l'ensemble des mortels, eh bien on peut voir que l'ensemble des philosophes est inclus dans l'ensemble des mortels. D'accord ? Maintenant, si vous regardez la deuxième inférence, tous les philosophes sont savants, c'est bien le cas ici, cet ensemble est inclus dans celui-ci. Quelques savants sont heureux, c'est cette intersection ici, entre l'ensemble des savants et l'ensemble des individus heureux. En revanche, il y a une intersection vide entre l'ensemble des philosophes et l'ensemble des individus qui sont heureux. Donc il ne suit pas de « tous les philosophes sont savants et quelques savants sont heureux » que « quelques philosophes sont heureux ». Si les savants en question ne sont pas philosophes, par conséquent. Donc on peut voir la logique comme une théorie des inférences qui sont déductivement valides. Mais pour bien comprendre ce que c'est qu'une théorie des inférences déductivement valides, il faut songer qu'une bonne théorie des inférences valides repose sur une bonne théorie de la grammaire dans laquelle on formule ces inférences. Donc je dirais que c'est aussi une théorie de la forme logique des énoncés. Et un exemple de cela, c'est justement les expressions de quantification, les quantificateurs, ces expressions comme « tous », par exemple, ou « tous les A sont B, tous les B sont C, donc tous les A sont C », c'est une inférence qui est valide, vous voyez, purement en vertu de l'usage de ces expressions logiques, de cette expression de quantité, « tous », en remplaçant donc les termes que vous voyez tout à l'heure comme « philosophe savant » par des lettres symboliques, on fait apparaître que ce qui importe pour la validité de ce genre d'inférence, c'est une forme grammaticale commune, une structure grammaticale commune. Alors la théorie du syllogisme d'Aristote est déjà une théorie qui, je dirais, telle qu'Aristote procède de façon consciente pour rendre compte justement du caractère logique du langage et du caractère valide ou non de certaines inférences. Il écrit que le syllogisme, c'est ce dont il veut faire la théorie, est un discours dans lequel certaines choses étant posées, quelque chose d'autre que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. Et il veut dire par là, c'est par elle seule que la conséquence est obtenue, et à son tour l'expression « c'est par elle que la conséquence est obtenue » signifie qu'aucun terme n'est en sus requis pour produire la conséquence nécessaire. Donc ça, une fois de plus, Aristote insiste sur le fait que ce qui importe à la validité d'une inférence, c'est les expressions logiques qui sont utilisées pour obtenir l'inférence. Et la syllogistique, c'est justement une théorie des inférences valides qu'on peut faire dans un certain fragment du grec ancien, de la langue grecque dans laquelle s'exprime Aristote. La question qu'il faut poser, c'est quelle est la grammaire de ce fragment? Quelle est la structure des énoncés dans le fragment que considère Aristote? Et la réponse est anticipée en quelque sorte, donnée de façon anticipée par Platon dans le Sophiste. Platon se demande, donc à la question « comment est construite une phrase ?» qui intervient à la fin du dialogue entre Socrate et Théétète. Socrate donne l'exemple d'un énoncé comme « Théétète est assis ». Et Socrate fait remarquer que cet énoncé a une structure en constituant, comme on dirait aujourd'hui, il faut au moins un sujet pour avoir une phrase, « Théétète », et un verbe, « est assis », pour pouvoir former la phrase, « Théétète est assis ». Et Aristote étend cette analyse, lui s'intéresse aux énoncés déclaratifs, par opposition aux questions, aux commandes, aux énoncés d'ordre, par exemple, les énoncés à l'impératif, du genre « qui est assis » ou bien « assieds-toi ». Et ces énoncés déclaratifs, ce qu'Aristote appelle « logos apophantikos », ont pour forme canonique la forme quantificateur sujet-prédicat. Donc un énoncé aristotélicien, c'est un énoncé de la forme « tout quantificateur sujet-prédicat », comme « tout homme est mortel », on distingue l'expression de quantité, le prédicat en position de sujet, le sujet à proprement parler, et est mortel, le prédicat. Et les quantificateurs, les termes logiques qu'il prend en compte, ce sont les quantificateurs comme « tout », mais aussi « quelque », au sens de « au moins un homme est mortel, quelque homme est mortel, aucun homme n'est mortel, et enfin « pas tout », expression dont on n'a pas vraiment d'équivalent en français, donc je la traduis par « pas tout », « pas tout homme est mortel », « pas tous les hommes sont mortels », si on utilisait le pluriel. Et ce sont ces quatre formes quantifiées qu'il considère dans la syllogistique. Donc première analyse de la structure des phrases, donc d'un fragment de la langue naturelle. Cette analyse nous est donnée dans le carré des oppositions d'Aristote, le carré des oppositions qui fait apparaître les rapports, les liens de dépendance logique qu'il y a entre les quatre énoncés aristotéliciens. Par exemple, ici, j'ai pris l'énoncé proprement aristotélicien, l'exemple même qu'utilise Aristote. Tout homme est blanc, nul homme n'est blanc, quelque homme est blanc et quelque homme n'est pas blanc. Non, pas tout homme est blanc. Donc les deux premiers énoncés sont dans une relation qu'Aristote appelle de contrariété, c'est-à-dire qu'ils peuvent être faux ensemble, mais ils ne peuvent pas être vrais ensemble. Il se peut qu'il ne soit pas vrai que tout homme est blanc, ni que nul homme n'est blanc. Certains le sont, d'autres pas. Et réciproquement, les énoncés donc, de la forme qui ont une quantification particulière, quelque homme est blanc ou quelque homme n'est pas blanc peuvent très bien être vrais ensemble, mais ne peuvent pas être faux ensemble. Enfin, il y a certaines relations de dépendance dans ce sens-là, entre tout homme est blanc si on présuppose qu'il existe des hommes, et donc quelque homme est blanc, et si nul homme n'est blanc, alors a fortiori, quelque homme n'est pas blanc s'il existe des hommes. Alors, de façon très significative pour ce qu'est l'entreprise linguistique d'analyse des phrases, cette distinction que fait Aristote entre, disons, ces relations ici de contrariété et les relations de contradiction est la suivante. Donc, des énoncés qui sont contradictoires, comme quelque homme n'est pas blanc et tout homme est blanc, ne peuvent pas être vrais ensemble, ne peuvent pas non plus être faux ensemble. C'est-à-dire ils s'excluent mutuellement, contrairement aux énoncés qui sont contraires ou subcontraires. De même pour quelque homme est blanc et nul homme n'est blanc. On peut dire qu'Aristote met là le doigt sur une ambiguïté qui est encore attestée aujourd'hui dans, je pense, l'ensemble des langues naturelles répertoriées. La distinction donc qui peut y avoir entre la portée, entre disons la place de la négation dans les énoncés qui sont quantifiés. Si vous regardez un énoncé comme « tout homme n'est pas mortel », cet énoncé est ambigu, vous devriez entendre l'ambiguïté entre d'une part « tout homme est non mortel », donc un énoncé de la forme universelle négative, et « non tout homme est mortel », donc un particulier négatif. Et donc ces deux formes logiques montre que l'énoncé « tout homme n'est pas mortel » est ambigu. Et donc il y a une ambiguïté de la négation en langue naturelle. Ambiguïté qui, une fois de plus, est attestée dans l'ensemble des langues naturelles connues. Et sur la base de cette analyse donc de la structure logique des énoncés, Aristote propose une théorie de la validité logique. Et c'est cette théorie qu'on trouve dans la syllogistique d'Aristote, cette théorie des figures, donc des inférences valides qu'on peut faire en utilisant quels ingrédients? Donc des énoncés de la forme quantificateur sujet prédicat et des arguments qui ont deux prémices et une seule conclusion, toutes de la forme quantificateur sujet prédicat. Donc cela donne une combinatoire finie dans laquelle donc, on peut répartir les syllogismes en quatre figures selon la position qu'aura ce qu'on appelle le moyen terme, c'est-à-dire une expression de prédicat qui est ici, par exemple, en position de sujet, ici en position de prédicat, proprement parlé. Ici, prédicat, prédicat, sujet, sujet, prédicat, sujet. Ces quatre figures, donc, si on suppose invariant lors des termes de la conclusion, donc, donnent lieu à 256 arguments syllogistiques possibles. Pourquoi ? Parce que vous avez à chaque fois quatre quantificateurs possibles et en tout quatre figures. Donc, quatre quantificateurs dans chacune des prémices. Et je vous rappelle qu'un un syllogisme aristotélicien a la forme que je donnais ici, d'accord ? Donc, une figure avec deux prémices ici, quantifiées chacune, telle que la conclusion soit également quantifiée. Donc, sur ces 256 formes syllogistiques possibles, seulement 24 de ces formes sont valides. C'est la contribution d'Aristote à l'étude des inférences valides, sous l'hypothèse toujours que, disons, les expressions utilisées ne sont jamais vides, c'est-à-dire contiennent au moins un individu. Donc, quand je dis « tout homme est mortel », il faut qu'il existe des hommes, de même quand je dis « aucun homme n'est mortel ». Maintenant, j'en viens aux limitations qu'on peut faire observer du cadre aristotélicien. Ces limitations sont les suivantes. Le cadre aristotélicien, et c'est Frege qui a en particulier observé ces limitations, le cadre aristotélicien est limité du point de vue de son pouvoir expressif. C'est-à-dire que certaines structures grammaticales, les énoncés qui font intervenir des verbes transitifs, ou dans lesquels il y a plusieurs quantificateurs, ne sont pas prises en compte dans le cadre d'Aristote, ou bien du moins, le cadre aristotélicien n'est pas adéquat pour en rendre compte. Donc, si vous regardez une inférence comme « aucun étudiant ne connaît tous les professeurs, quelque étudiant connaît tous les assistants », donc « quelque professeur n'est pas un assistant », c'est une inférence qui est valide. Mais pour en rendre compte, il faut admettre que des expressions de quantité, comme ici « tous », puissent apparaître à l'intérieur même de ce qu'Aristote considère comme un prédicat. Et ça n'est pas possible à proprement parler dans telle que Aristote, disons, formule ses règles, disons, de construction des énoncés. De la même manière, il ne prend pas en compte ce qu'on appelle la quantification non restreinte. Pierre admire tous les philosophes, quelqu'un est un philosophe, donc Pierre admire quelqu'un. On ne précise pas exactement. Donc, qui est ce quelqu'un dans l'énoncé ? Pierre admire quelqu'un. Il s'agit vraisemblablement d'un homme, d'après le contexte, mais ça n'est pas exprimé linguistiquement. Et ça a à voir avec le problème de l'utilisation des termes singuliers. Son fragment, donc, ne rend pas compte non plus d'expressions comme « si Pierre admire tous les philosophes » et que « Socrate est un philosophe, Pierre admire Socrate ». Donc, au Moyen-Âge, sachez qu'il y a une théorie qui est élaborée, en fait, les médiévaux ont tenté de rendre compte d'étendre, disons, le pouvoir expressif de la logique d'Aristote, d'une façon d'ailleurs qui a été réévaluée par la suite, après, vous verrez, après la critique qu'en a fait Frege et même Montagu, notamment par Johan van Bentum, par exemple, qui est un logicien hollandais. Mais je passe sur ces subtilités. L'essentiel est donc que, pour Frege, par exemple, le cadre d'Aristote ne rend pas compte directement, en fait, de ce genre d'inférence. Et de même, Aristote ne rend pas compte de la façon dont on peut lier ensemble des énoncés complets, par exemple à l'aide d'expressions conditionnelles en « si alors », « si tous les hommes sont sages, alors tous les banquiers sont honnêtes »,« quelque banquier n'est pas honnête, donc quelque homme n'est pas sage », inférence qui est valide, mais là aussi telle que le fragment ne permet pas d'en rendre compte, puisqu'Aristote ne discute pas des expressions conditionnelles. Donc on a affaire à un manque de pouvoir expressif de la logique d'Aristote, et néanmoins, on peut souligner le fait qu'Aristote a donné à la linguistique, premièrement, une théorie de la quantification, vous l'avez vu dans le carré aristotélicien, une théorie de la négation aussi, et une caractérisation des inférences valides. Donc beaucoup de choses à l'histoire de la logique, et surtout à l'analyse logique qu'on peut faire du langage naturel. Maintenant, tournons-nous donc directement vers la refondation que propose Frege de la logique dans l'idéographie, donc ce texte de 1879 que Frege publie à l'époque, il a simplement 31 ans, il est mathématicien à Iéna, et il fait remarquer dans la préface de l'idéographie, donc un texte qui est conçu essentiellement comme une contribution logique à l'étude mathématique, aux mathématiques avant tout, plus qu'à l'analyse des langues naturelles. Il fait remarquer que la logique s'est, selon lui, jusqu'ici toujours attachée trop étroitement à la langue et à la grammaire. Donc une fois de plus, c'est en ce sens que je disais qu'il y a un écart affirmé entre, du moins, la structure grammaticale évidente, manifeste des énoncés et l'analyse logique qu'on peut en donner. Je vais expliquer ça. Cet écart se manifeste dans l'abolition que propose Frege de la distinction des notions de sujet et de prédicat. Donc, à la question « comment se construit une phrase ?», Aristote répond, je dis ça de façon très lapidaire, grosso modo, un énoncé minimal à la structure sujet-prédicat. Et Frege critique cette distinction, on va le voir, sur la base d'une théorie nouvelle de la quantification qui propose également une représentation explicite des connecteurs logiques. Donc, tous les exemples que j'ai énumérés sont des exemples dont Frege peut rendre compte à l'aide, disons, d'un cadre logique qui est plus expressif. Alors cette théorie la quantification et de la structure logique des énoncés repose sur une distinction clé qui sera reprise par la suite par Montagu, la distinction entre fonction et argument que Frege substitue, on peut dire ça, au paradigme sujet-prédicat. Donc, si vous regardez un énoncé comme César conquit les Gaules, eh bien Aristote dirait l'énoncé est donc constitué d'un sujet, César, et d'un prédicat, conquis les Gaules. Et Frege est certes d'accord sur cette analyse, mais il propose une nouvelle analyse qui consiste à dire, regardez, vous pouvez analyser ici le prédicat, conquis les Gaules, comme une expression de fonction qui, lorsqu'on lui donne un certain argument, X pour César, eh bien, donne une phrase complète, F de X. Donc, si X représente César, et F, le prédicat conquis les Gaules, F de X va représenter la phrase entière. Et pourquoi cette distinction entre fonction pardon, et argument ? Parce que selon Frege, donc, le prédicat, ici, l'expression de fonction qui lui correspond, désigne un concept qui, appliqué à un objet, donc une entité insaturée, comme dirait Frege, qui, lorsqu'elle prend pour argument une entité complète, saturée, va donner une certaine valeur de vérité. Donc, par exemple, si X est l'individu, désigne justement l'individu César, f de x va prendre la valeur 1, la valeur vraie. La phrase « César conquit les Gaules » sera vraie. Mais si x désignait un individu qui ne serait pas César, par exemple Marc Aurèle ou bien Socrate, eh bien la fonction devrait prendre pour valeur la valeur 0. C'est-à-dire que la phrase « Marc Aurèle conquit les Gaules » ou « Socrate conquit les Gaules » serait fausse. Moyennant cette analyse nouvelle donc, de la structure logique des énoncés, on peut donner une analyse nouvelle de la quantification, ce que fait Frege, c'est-à-dire que tous les énoncés aristotéliciens peuvent être analysés de la façon suivante. Donc, tout individu est mortel, ça signifie chacun est mortel, ça signifie que la fonction mortelle de x prend la valeur vraie, quel que soit l'argument qu'on lui donne. Ce qu'on notera, pour tout x, x est mortel. De la même manière, on peut analyser quelqu'un est mortel comme signifiant il existe un x tel que x est mortel. Si vous voulez, la fonction mortelle de x prend la valeur vraie pour au moins un de ces arguments. Et quand vous en venez à tout homme, il me semble qu'il y a une erreur ici, tout homme est non mortel. Non, pardon. C'est simplement quand vous donnez cette fois au sujet. Disons, une structure, au lieu de tout individu est mortel, tout homme est mortel, vous passez à l'énoncé proprement aristotélicien, on va analyser ça comme signifiant, pour tout x, si x est un homme, alors x est mortel, quelqu'homme est mortel, il existe un x tel que x est un homme et x est mortel. C'est-à-dire une forme de quantification qui est restreinte ici par ce qu'on appelle donc, le connecteur conditionnel, ça c'est le symbole qu'introduit Frege pour le connecteur conditionnel, et ici, du moins pas le symbole que lui a introduit explicitement, disons, il a un mécanisme, un formalisme qui en tient lieu, idem pour la conjonction, il existe un homme et un x qui est un homme est tel que x est mortel. Donc on peut, moyennant donc, cette analyse nouvelle de la quantification, rendre compte de chacune des formes logiques utilisées par Aristote dans l'étude, dans le fragment syllogistique. Maintenant, si vous réfléchissez bien à cette extension, ça donne lieu à une analyse nouvelle, par exemple, des verbes transitifs. Les verbes transitifs expriment des relations. C'est quelque chose que Russell, en particulier, mettait en avant contre certaines des analyses logiques de Leibniz. Un énoncé comme « Pierre aime Marie » peut signifier que le prédicat « aime Marie » pris comme un tout s'applique à Pierre, ou bien que le prédicat binaire, la relation « aimée », vaut entre deux individus, Pierre et Marie. D'accord ? Donc vous avez au moins deux formes logiques différentes pour cet énoncé, Pierre aime Marie, ou bien aimer Marie est un prédicat qu'on n'analyse pas à un seul argument qui s'applique à Pierre, ou bien aimer est un prédicat à deux arguments qui s'applique à deux individus différents. Ça montre qu'on peut donc, à la question déjà comment est construite une phrase, vous pouvez dire ben, il est déjà possible de construire, de dériver différemment une phrase selon l'analyse qu'on donne des constituants de la phrase. Maintenant, l'analyse frégéenne nous dit qu'on peut, en quelque sorte, rentrer à l'intérieur des énoncés aristotéliciens, on peut en donner une structure logique plus fine, si justement on traite les verbes transitifs comme des relations et non pas comme des prédicats saturés par leur argument. De même, on peut rendre compte de la quantification multiple. Et je donne ici un énoncé qui est choisi à dessein. Je vais illustrer deux choses par là. Si vous regardez un énoncé comme « un professeur interrogera chaque étudiant », c'est un énoncé qui est ambigu dans la langue naturelle. Ça peut signifier il y a un professeur, un seul et même professeur, qui va interroger tous les étudiants, chacun des étudiants, ou bien, pour chaque étudiant, il existe un professeur qui va l'interroger, éventuellement qui varie, d'accord, d'un étudiant à un autre. Et cette ambiguïté, qu'on appelle une ambiguïté de portée, ici, de ce quantificateur, de l'indéfini, elle est justement reflétée, elle peut être saisie dans l'analyse que Frege donne de la quantification. On a ici un énoncé donc, qui fait intervenir deux expressions de quantité, un et chaque, et Frege va, donc le cadre frégéen rend possible une désambiguisation donc, de l'énoncé, ici. Il y a deux formes logiques qui correspondent à cet énoncé. Dans un cas, on dit « il existe un x tel que x est professeur », donc il y a un professeur, tel que pour tout y qui est un étudiant, X, donc ce professeur, interrogera cet étudiant. C'est ce que je représente de cette façon. Mais vous pouvez aussi le voir comme, pour tout Y qui est un étudiant, pour tout étudiant, il y a un individu X, professeur, tel que X interrogera l'étudiant en question. Et ces deux énoncés, donc ce sont deux formes logiques distinctes, dont les conditions de vérité ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire une forme logique, cette forme ici logique, entraîne celle-ci, mais non pas l'autre, non pas l'inverse. Donc on a affaire, au total, si je résume, à une logique qu'on appelle le calcul des prédicats, d'accord, le formalisme qui permet de décrire ces énoncés, qui est plus expressive que la logique d'Aristote, qui permet de rendre compte de l'ambiguïté de certains énoncés de la langue naturelle, ambiguïté dont Aristote ne pourrait pas rendre compte, puisque lui n'aura pas d'analyse suffisamment fine de la structure logique de ces énoncés. Mais par ailleurs, vous voyez un troisième trait apparaître, c'est qu'il y a un certain écart entre la forme logique de l'énoncé et la forme grammaticale de surface de l'énoncé. Pourquoi ? Ici, vous voyez apparaître ces expressions. Bon, ici, j'ai réécrit la conjonction à l'aide de symboles. Ici, vous avez toujours un symbole de conditionnel. Donc ce symbole « et le symbole « si alors », par exemple, n'apparaissent pas de façon manifeste dans l'énoncé « un professeur interrogera chaque étudiant ». Donc il y a un certain écart entre la forme logique que j'ai donnée ici et la forme grammaticale de surface, comme on dira plus tard, c'est-à-dire la dérivation que vous seriez tenté de donner simplement de chacun de ces énoncés. Et cet écart entre forme logique et forme grammaticale est un écart qui est marqué dans d'autres travaux qui sont contemporains de ce Frege, par exemple chez Russell à la même époque, mais je vais passer sur ces analyses. Mais sachez que c'est en ce sens que je peux dire que l'analyse frégéenne de la quantification et de la structure logique des énoncés s'écarte d'une certaine conception de l'étroitesse du lien entre grammaire et logique. Le bilan qu'on peut faire de la contribution frégéenne à l'analyse du langage, c'est le suivant, c'est que de l'aveu même de Frege, l'idéographie, cette écriture des concepts, comme l'a voulu Frege, c'est avant tout un langage qui était requis pour, en quelque sorte, rendre plus transparente l'écriture des mathématiques. Songez qu'un énoncé comme « un professeur interrogera chaque étudiant », ça pourrait être, par exemple, si vous remplacez « professeur » par « un entier », par des expressions des mathématiques, des expressions arithmétiques, un entier, par exemple, précède chaque entier, d'accord ? Ça peut vouloir dire que, il y a un entier qui serait, par exemple, plus petit que tous les autres, ou qui précéderait tous les autres, ou bien que tout entier est précédé par un entier. Et ça décrit des structures mathématiques différentes. Or, l'énoncé mathématique correspondant serait donc ambigu, et ce que voulait Frege, c'était remédier aux imperfections du langage ordinaire, montrer que l'idéographie permet justement d'écrire les énoncés du langage ordinaire d'une façon qui évitait les erreurs mathématiques. Un point qui était souligné ici par Danny Fox, qui est un syntacticien il y a quelques semaines seulement, par exemple dans l'école d'automne en linguistique qui avait lieu à l'ENS, il faisait référence à un article de Lakatosh, justement sur le fait que telle ou telle preuve mathématique avait longtemps été considérée comme valide, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que certaines ambiguïtés de portée des quantificateurs n'avaient pas été repérées par les contemporains, les mathématiciens, au moment où cette preuve était formulée. Donc Frege voyait le langage formel comme un microscope, c'est-à-dire un langage qui est certes moins maniable que le langage ordinaire, mais plus adapté pour regarder, disons, pour écrire les mathématiques. Donc la logique, fondamentalement un langage pour les mathématiques, et de sorte que l'opposition est en quelque sorte marquée entre la logique et la grammaire des langues naturelles. Maintenant j'en viens donc à la troisième partie et dernière partie de cet exposé, c'est-à-dire que va-t-il se passer à partir des années 50 au moment où la linguistique devient une discipline formelle, une discipline mathématique. Et je voudrais ici vous indiquer en quelque sorte le destin justement des analyses aussi bien frégéennes qu'aristotéliciennes dans les travaux de Chomsky et de Montagu. Donc Chomsky est l'inventeur, on peut dire le principal inventeur de ce qu'on appelle la grammaire générative. On parle de grammaire générative transformationnelle même, mais je laisserai de côté la question des transformations. On peut éventuellement en discuter à la fin de cet exposé. Au moment où Chomsky publie ses premiers résultats mathématiques, disons de linguistique mathématique, dans les années 50, songez qu'il publie ses travaux dans un contexte qui est celui des débuts de l'informatique, et en particulier dans les années 30 et les années 40, les logiciens comme Turing, comme Church, se sont intéressés à la notion de calcul, à la notion de machine théorique, ce qui deviendra donc des ordinateurs avec les travaux de von Neumann et d'autres. Et on s'intéresse aussi à la façon dont les langages peuvent être engendrés de façon automatique, mécanique. Et on voit à cette époque, c'est le cas des travaux de Kleene, par exemple, Kleene, comme on dit parfois, une grammaire formelle comme un ensemble de règles qui sont destinées à engendrer les énoncés d'un langage de façon purement mécanique, automatique. Et on pourrait dire qu'une grammaire formelle, c'est donc un énoncé, un ensemble de règles qui va permettre d'engendrer les énoncés grammaticaux d'une langue donnée, et seulement ces énoncés-là. Et l'idée de Chomsky est d'examiner le lien qu'il peut y avoir entre la grammaire des langues naturelles et ces grammaires formelles. Je vais en donner un exemple. Le but de Chomsky, c'est un point que je ne souligne pas d'ailleurs dans l'article de Pour la science, mais je le fais ici. Quelle était l'ambition de Chomsky? C'était de rendre compte de la capacité que nous avons à produire et à interpréter un nombre potentiellement infini de phrases. Chomsky voulait rendre compte du fait que, justement, nous n'apprenons, nous n'entendons jamais qu'un nombre fini de phrases, et vraisemblablement, nous ne sommes pas capables, par induction, de dériver tous les énoncés qui seraient grammaticaux d'une langue donnée. Or, nous sommes capables de reconnaître si un énoncé est grammatical ou pas. Et donc, dans ce texte de 1957, Structure syntaxique, il examine une hiérarchie de grammaires formelles et leur adéquation vis-à-vis de cette tâche, c'est-à-dire voir laquelle de ces grammaires formelles serait la plus apte à engendrer tous les énoncés reconnus comme grammaticaux ou non d'une langue naturelle donnée. Alors je vais vous donner ici un exemple. Prenez un énoncé comme « un très grand homme observe un chien ». Cet énoncé a une structure syntaxique, par exemple la structure qui commencerait par « donc c'est une phrase », la phrase « un très grand homme observe un chien ». Cette phrase s'analyse en un groupe nominal, un groupe verbal. Donc le groupe nominal, c'est un très grand homme. Le groupe verbal observe un chien. Le groupe nominal peut à son tour s'analyser en déterminant ici un groupe que j'appelle adjectival, très grand, d'accord. Ensuite, le groupe adjectival lui-même est constitué d'un adverbe qui s'applique lui-même à un adjectif, grand, qui est lui-même un groupe adjectival à soi seul, parce que si vous réfléchissez au fait qu'un groupe adjectival peut être constituant d'un groupe adjectival, ça permettrait d'engendrer des groupes nominaux comme un très grand homme, un très très grand homme, c'est-à-dire que la grammaire est ce qu'on appelle récursive, a une propriété d'engendrer un nombre infini d'expressions, par ce genre d'enchâssement, justement, d'une catégorie dans une autre. Et de même, observe un chien, eh bien c'est le verbe observe, qui prend pour argument un groupe nominal, lui-même constitué d'un déterminant et d'un nom. Et ce genre de structure syntaxique, eh bien, on peut voir qu'elle est dérivée de façon au sens strict, de façon automatique, dans ce qu'on peut appeler une grammaire formelle, ce qui chez Chomsky s'appelle une grammaire non contextuelle, c'est-à-dire un certain nombre de règles de réécriture. Vous avez ici des catégories, catégories intermédiaires, qui tiennent lieu des catégories syntaxiques, et ici, in fine, les expressions du lexique, c'est-à-dire un adjectif ici serait écrit comme l'expression du langage grand, un adverbe comme très, un nom comme chien ou homme, le verbe embrasser, et par substitution, on arrivera à la phrase complète, et à d'autres phrases si on enrichissait le lexique. Donc ce que cherchait à faire Chomsky, c'était justement à montrer, à discuter, c'est ce qu'il a fait, il a discuté l'adéquation de ce modèle des grammaires non contextuelles vis-à-vis du langage naturel. Et au moment où Montagu, lui, commence ses travaux, eh bien, son ambition, je l'ai dit dès le début, est de mettre ensemble, en quelque sorte, ce modèle de dérivation syntaxique des énoncés du langage ordinaire avec des structures d'interprétation, des structures sémantiques. Et ce que fait Montagu, c'est qu'il se donne un cadre, une logique qui sera plus expressive que la logique de Frege, ce qu'on appelle la théorie des types, et il va généraliser l'analyse fonction-argument que je vous ai présentée, l'analyse de Frege, pour montrer qu'on peut, de la même façon que l'analyse chomskienne permet de dériver syntaxiquement et de façon donc automatique les énoncés grammaticaux et seulement ces énoncés-là d'une langue donnée, eh bien on peut dériver des formes logiques qui correspondent à l'interprétation de ces énoncés. Et on peut, en vertu de ce qu'on pourrait appeler un parallélisme entre la syntaxe et la sémantique, ce parallélisme, il est reflété dans un principe très important, sur lequel je vais revenir, le principe de compositionnalité, qui dit que la signification d'une expression composée est une fonction des significations de ses parties composantes. Donc en généralisant l'analyse fonction-argument de Frege, eh bien, on donne à ce principe de compositionnalité une valeur qui est plus que métaphorique. Donc le traitement logique des phrases dans la grammaire de Montagu consiste à faire quoi ? Donc c'est par exemple dans un article, un des derniers qui est écrit Montagu, « English as a formal language », l'anglais comme langage formel, vous retrouvez l'inspiration que j'évoquais au début, on part d'un énoncé ou d'une phrase du langage naturel, on dérive l'arbre syntaxique qui correspond, on construit donc là, on voit de quelle manière dériver la phrase syntaxiquement, on donne ensuite une traduction logique, donc dans un certain formalisme que je vais exposer, une traduction de ces énoncés du langage naturel, et enfin on peut ensuite les interpréter, étape sur laquelle je passe ici. Prenez par exemple un énoncé simple, un énoncé aristotélicien, « Quelque homme nage » ou bien « Un homme nage ». Eh bien, on a une phrase ici qui s'analyse en groupe nominal, groupe verbal. Donc le groupe nominal « Un homme », le verbe ici, « nage ». J'aurais pu mettre un verbe ici, mais admettons que les règles de réécriture permettent de le faire. Le déterminant « un », enfin, composant constituant du groupe nominal, et « homme », un nom, qui est également constituant du groupe nominal. L'étape suivante consiste à assigner à ces expressions des valeurs logiques, ce qu'on appelle des types. Par exemple, une phrase, comme chez Frege, a la valeur vrai ou faux. Donc on va lui donner le type T, qui veut dire que la phrase peut être vrai ou faux, type des valeurs de vérité, truth value. Maintenant, quand on analyse la phrase, en groupe nominal et groupe verbal, vous voyez qu'un homme, ici, a un type complexe, ET, T, et ici, nage, ET. Donc ça, ça désigne le type des fonctions justement, frégéenne, des fonctions qui prennent un individu de type E et qui rendent une valeur de vérité. Souvenez-vous de l'exemple César conquis les Gaules. Et ça, ce type plus complexe, ETT, en fait, vous voyez que quand on lui passe un argument de type ET, il rend un argument de type T. Et si vous faites la même analyse pour le déterminant 1 et homme, homme, c'est quelque chose qui est du même type que nager, d'accord ? C'est un prédicat, être un homme, quelque chose. Quand je dis Phido est un homme, c'est faux, mais si je dis Socrate est un homme, c'est vrai. Et le déterminant 1, donc c'est tel que quand l'expression de type ET va être passée à cette expression complexe, vous voyez que le ET se supprime et on arrive à cette expression ici, qui est le type du groupe nominal un homme. Troisième étape, eh bien, en fait, ces règles d'assignation des types, il leur correspond des formes logiques sur lesquelles que je ne détaille pas. L'idée que le formalisme de Montagu est tel que ces expressions, lorsqu'on les combine, eh bien, exactement comme les types se combinent et donnent lieu à des types plus simples, les expressions combinées vont donner lieu à des expressions logiques plus simples, qui combinées arrivent à une expression que vous reconnaissez ici, une expression frégéenne. Il existe un X tel que X est un homme et X nage, et cette expression est évaluable disons, elle est interprétable dans un modèle, ce qu'on appelle un modèle, une structure d'interprétation, et chacune de ces expressions, donc, correspond à une notion naturelle, disons, d'interprétation, qui manque à l'approche chomskyenne. Au total, donc, si vous regardez la structure de cette phrase, ce qui a lieu chez Montagu et qui n'avait pas lieu chez Frege, c'est que, eh bien, on rentre à l'intérieur même de cet énoncé, on peut assigner des valeurs, par exemple, à des expressions comme les déterminants, valeur que ne donnerait pas Frege. Et donc, on a un traitement logique qui est uniforme, en quelque sorte, des constituants de chacun des énoncés, traitement qui manque à l'approche initiale, l'approche pionnière de Frege, aussi bien que de Russell. Au total, donc, on a affaire à un certain parallélisme entre le calcul du sens, donc ce parallélisme que vous voyez ici, ça, c'est ce qui correspond à la traduction logique, d'accord ? Le sens, si vous voulez, le sens logique de ces expressions de la langue naturelle et la syntaxe elle-même, c'est-à-dire les catégories syntaxiques qui sont utilisées pour construire la phrase. Ce parallélisme entre le calcul du sens et la structure des phrases, C'est donc la contribution essentielle de Montagu à la linguistique mathématique. Donc les conclusions auxquelles je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est que les travaux de Chomsky et Montagu suggèrent que les langues naturelles ne sont pas simplement formalisables, que des fragments, disons, de ces langues naturelles ne sont pas simplement formalisables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement les transcrire dans un langage logique, mais ces travaux suggèrent que les langues naturelles peuvent être considérées comme des langages formels spécifiques. Peut-être que les règles sont incomplètement spécifiées dans les fragments envisagés par Montagu lui-même, et même par les linguistes d'aujourd'hui. On prétend jamais rendre compte de tout le langage, mais de fragments plus ou moins étendus du langage. Mais la thèse substantielle que proposait Montagu, c'était que non seulement la logique permet d'analyser la structure d'une phrase du langage naturel, mais que les langues naturelles sont des langages logiques plus riches que ceux qu'envisageait même Frege lui-même, disons. Maintenant, à la question comment est construite une phrase, la question que j'ai préféré laisser de côté ou aborder de façon détournée, pour y revenir, donc pour ne pas manquer à mes devoirs, je dirais que peu importe le cadre que vous choisissez, d'accord, le cadre d'analyse formelle, ce qu'il y a de commun aussi bien, si vous y réfléchissez, à l'analyse aristotélicienne qu'à l'analyse frégéenne et aux analyses successives, c'est l'idée que donc la réponse est comment est construite une phrase, je dirais, de façon compositionnelle. C'est-à-dire qu'il faut bien donner une analyse en constituant la phrase et faire en sorte que le calcul du tout puisse être une fonction du calcul des parties. Du point de vue de la structure, comme du point de vue du sens, du point de vue de la syntaxe, comme du point de vue de la sémantique. Pourquoi ? Parce que c'est la seule explication, ou probablement la meilleure explication, qu'on a de la capacité que nous avons à engendrer, de même qu'à interpréter, une infinité potentielle de phrases. Donc, tout ce que je dis, par exemple, présentement, c'est probablement quelque chose que je n'ai jamais entendu tel quel avant, et vous êtes vous-même capable de l'interpréter, de le décoder au fur et à mesure que je le prononce. Donc cette thèse, qui est, disons, au cœur de l'approche de Chomsky, est reprise, vous voyez, par Montagu, et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a cette convergence entre les travaux de Montagu et ceux de Chomsky, aussi bien l'apport de Chomsky que celui de Montagu, et, je dirais, la pierre d'angle de toutes les entreprises contemporaines d'analyse formelle de la syntaxe comme de la sémantique des langues naturelles. Autrement dit, ce que je vous ai présenté de façon très partielle, ça a été raffiné, élaboré, mais c'est encore le cadre dans lequel les linguistes travaillent aujourd'hui. Maintenant, il y a un point sur lequel j'insiste, et c'est celui sur lequel je termine, parce que c'est l'objet d'âpres débats en sciences cognitives, notamment, pensez que Chomsky est l'un des fondateurs des sciences cognitives, c'est que les grammaires logiques, aussi bien dans la forme qu'en donne Chomsky que celle qu'en donne Montagu, constituent avant tout un modèle théorique. Donc elles ne prétendent pas, en particulier, donner une analyse des processus psychologiques, si vous voulez, neurologiques, mais aussi psychologiques, plus généralement, qui sont sous-jacents à la production comme à l'interprétation des phrases. Pensez qu'il ne s'agit que de modèles théoriques, il reste un effort substantiel à faire pour justement mettre en rapport ce type de modèle avec la façon dont « online », comme on dit, donc s'effectuent les processus d'interprétation et de production des énoncés linguistiques. Et ça, je dirais que c'est la tâche contemporaine de la linguistique, aussi bien que des sciences cognitives plus généralement. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup pour ce brillant exposé. Je pense que nous avons tout le temps pour des questions dans la salle. N'hésitez pas.
Oui. C'est une bonne question, mais c'est plutôt.
Ah ben, je vais donner un micro.
Merci, c'est pas une question que j'ai posée au fond.
Peut-être pas branché. D'accord.
Allô ?
Ça y est, il est branché, il me semble.
C'est branché ?
Oui, c'est bon.
Très bien. Oui, non, ce n'est pas une question, c'est d'abord une manière de remercier l'orateur et un argument qui va dans son sens. Bien que j'adhère à ce qui a été dit de Frege et une limite marquée. Mais la notion de générativité, qui a été importé par Chomsky vient très précisément de sa thèse de doctorat qu'il avait écrite à Harvard, et dans lequel il introduit cette notion de générativité à partir des Frege-Russell type, le système de Frege-Russell type. Il a bien remarqué que l'important était la générativité, c'est-à-dire des règles de transformation. Et ça, alors là, Aristote a une méthode analytique. Si vous voulez continuer à bien caractériser les différences, elles sont réelles et vous les avez montrées, mais m'ajouter un trait supplémentaire, la méthode d'Aristote est une méthode totalement analytique. Il faut logikos kai kenos, analytikos kai physikos. Il ne faut surtout pas garder une structure de proposition, il faut tout de suite, il faut le fuir comme la peste, décomposer en termes, et là alors on risque d'avoir une sémantique naturelle. Tandis que Frege part en effet d'une structure que je ne dirais pas propositionnelle, mais je ne veux pas entrer dans les raisons pour cela, c'est une certaine structure, et l'important est la générativité, parce que son problème était comment est-ce que je peux passer de 2 plus 2 égale 4 à de moins 2 égale 0. Aucune structure aristotélicienne ne va m'expliquer ça. Donc il faut un régime de transformation et cette notion de transformation, elle est absolument immanente. Frege la montre, il ne la dit pas. Mais s'il avait choisi cette étrange écriture, c'était de manière à la plaquer, à la faire voir. Voilà. Donc il y a encore plus de continuité dans cette histoire que ce que...
Effectivement, pour réagir à ce que vous dites, c'est vrai qu'on présente... On parle souvent de la thèse d'analyticité de Frege, mais c'est vrai que, disons... Ce que cherchait absolument, j'entends exactement ce que vous dites, je pense, c'est-à-dire qu'il ce qu'il cherchait à faire avant tout, effectivement, c'était rendre compte de la
décompression,
de la façon dont on peut engendrer en fait les mathématiques à partir de la logique.
Distinguer les cellules plus élémentaires à partir de cellules plus complexes, mais, ou alors analyse veut dire n'importe quoi. Enfin, mais ce n'est certainement pas une procédure analytique. Non.
Une autre question ?
Bon, je vais essayer de poser ma question en des termes logiques, parce qu'en linguistique, je ne connais pas. Donc, en commençant par Aristote, c'est-à-dire... En faisant sa logique, c'est pour faire en sorte que le langage devienne plus rigoureux et en calquant la rigueur qui a été faite, qu'il l'a trouvée et découverte dans les mathématiques.
Vous parlez d'Aristote ou de
Frege ? Oui, d'Aristote, là. D'accord. Je commence dès le début. Mais si on a découvert, vers le début du XXe siècle, surtout avec Gödel, que ça ne suffit pas même pour rendre compte des mathématiques elles-mêmes, alors, à quoi bon continuer pour faire ça avec le langage, alors que c'est fait non pas pour étudier, mais pour structurer, pour rendre plus rigoureux ? C'est ça ?
D'accord, j'entends la question. Il me semble que Aristote n'envisageait pas, en fait, l'étude de la logique comme une tentative pour rendre plus rigoureux le langage des mathématiques de son époque. Il faut voir plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'au moment où Euclide, par exemple, écrit les éléments, il envisage, donc si j'ai mal compris votre question, je vais y revenir, mais au moment où Aristote donc, écrit, les mathématiques sont dans une phase également, disons, de très forte productivité. Et par exemple, Euclide lui-même est un hérite en particulier des analyses d'Aristote, mais à ma connaissance, Aristote ne prétend pas donc, que l'analyse logique qui va donner d'un certain fragment de la langue naturelle serait destinée à rendre plus rigoureux le langage mathématique. Je n'exclus pas, mais je ne suis pas historien des sciences, que, disons, qu'il y ait des liens entre les deux. Donc, si vous précisez maintenant votre question, vous entendez l'inverse.
C'est-à-dire il était stupéfait de la rigueur des textes mathématiques. Donc, il a essayé de rendre compte de ce qui faisait que les mathématiques étaient aussi rigoureuses que ça. C'est pour ça qu'il a fait la logique. Il a dit, si on veut que le langage soit plus rigoureux dans les rhétoriques, il faudrait qu'on se base, qu'on fasse un traitement logique. C'est-à-dire, il a transposé, il a dit que pour que le langage naturel soit effectif, il a essayé de transposer la rigueur des raisonnements mathématiques qu'il a essayé de mettre ensemble dans ce qu'il a appelé l'organon, en fait, pour rendre le langage naturel plus rigoureux. C'est-à-dire, il est parti des mathématiques.
D'accord, alors je vous entends. Je réponds. Donc, une fois de plus, je suspends mon jugement sur les aspects d'histoire des sciences, sur la façon dont Aristote aurait mis au point ou pas sa logique et l'organon. Ce qui est certain, c'est qu'Aristote voyait, en tout cas, la logique, et en particulier cette branche de son traité, l'organon, d'accord, de cet instrument propédeutique à l'étude de la physique, etc., comme une manière d'aborder le langage. Il y avait aussi la rhétorique, il y avait la poétique, et la logique était une manière de regarder le langage. De façon intéressante, la rhétorique correspondrait d'ailleurs, par certains des aspects, à ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse pragmatique du langage, dont je n'ai rien dit dans cet exposé, sur laquelle on pourrait discuter. Maintenant, sur la deuxième partie de votre question, sur le lien, si j'ai compris la deuxième partie de votre question, qui faisait référence à Gödel, Kurt Gödel, je pense que les travaux, à proprement parler, de Gödel sur l'étude du pouvoir expressif de certains systèmes symboliques, d'accord, vis-à-vis de l'ensemble des mathématiques, en particulier, je pense, les théorèmes d'incomplétude que vous devez avoir à l'esprit. Donc, ils disent que, par exemple, certains, eh bien, étant donné le langage de la logique, disons, du premier ordre, par exemple, qu'on enrichirait de prédicats pour représenter être un entier, être successeur, etc., on donne certains axiomes, et effectivement, il y a certains énoncés de ce langage qui sont vrais, mais qui ne sont pas dérivables formellement dans ce langage. Donc, ça a bien à voir avec certains résultats que j'ai mentionnés ici, les résultats de Kleene, par exemple, Kleene, sur le fait que, eh bien, si vous voyez les mathématiques comme un langage et que vous essayez de réduire ça à la logique, eh bien, il y a certains énoncés qui sont vrais intuitivement, et même en un sens qu'on peut préciser mathématiquement, mais qui ne sont pas dérivables dans le cadre de certains formalismes. Mais ça, et là, j'insiste là-dessus, ça ne signifie pas pour autant qu'il faille jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ça ne remet même pas en question le projet de réduire les mathématiques à la logique, par exemple. Ça remet, à mon avis, encore moins en question le projet de donner une analyse logique des énoncés de la langue naturelle. Parce que rien ne nous dit que les énoncés de la langue naturelle sont contraints de la même façon que, les théorèmes de l'arithmétique. Vous voyez ? Donc c'est... Voilà, je m'arrête sur cette réponse un peu longue à votre question. Oui ?
Je voudrais savoir une chose. Lorsqu'Aristote dit que parmi les 256 syllogismes possibles, seuls 24 sont valides, est-ce qu'il une explication de la manière dont il opère cette distinction, est-ce qu'il dit sur quoi repose cette valeur de vérité, cette validité ? Si c'est sur le sens commun, si c'est sur...
Oui, bonne question. Disons, cette reconstitution, en fait, du cadre aristotélicien, elle est tout à fait correcte, même si Aristote n'a pas présenté les choses de cette façon. Lui, effectivement, cherchait à rendre compte de la validité, donc du fait que l'espace logique des arguments valides se restreigne comme ça, d'accord, ou l'espace des arguments valides se restreigne à seulement tant de figures, pas simplement par énumération, parce qu'on pourrait le faire à chaque fois, d'accord. On pourrait, si je reviens au début de cet exposé, et aux exemples que je donnais, voilà, d'énoncés qui seraient valides ou non valides, on pourrait toujours essayer, à l'aide de diagrammes, par exemple, ça c'était la façon 19e siècle, de rendre compte de la validité ou de la non-validité par énumération. Comme dit Quine, par exemple, dans son manuel de logique, c'est une heure de passe-temps d'essayer de montrer que, disons, seulement 24 des 256 arguments syllogistiques possibles sont valides. Ce qu'a cherché à faire Aristote, c'était à en rendre compte d'une façon effectivement qui soit, qui obéisse à des principes rationnels, et en particulier lorsqu'on regarde les figures du syllogisme, Aristote a cherché dans ses écrits à montrer de quelle manière les figures 2, 3 et 4 pouvaient se ramener au syllogisme de la première figure, qui considérait comme plus parfait que les syllogismes des autres figures. Alors, on y voit en général disons l'esquisse d'une approche axiomatique en fait, de la notion de validité, c'est-à-dire pas simplement raisonner comme je le faisais ici, c'est-à-dire raisonner en termes de modèle, de ce qui est vrai ou faux, d'accord, essayer de montrer que la conclusion ici suit et ici ne suit pas en raisonnant en termes de vérité ou de fausseté, mais raisonner de façon syntaxique au sens où l'entendent les logiciens, c'est-à-dire à partir d'une figure, on se donne des règles qui nous permettraient de dériver les formes valides dans les autres figures. Mais je pense que les essais d'Aristote étaient des essais partiels en ce sens. Les médiévaux ont fait beaucoup plus par la suite. Et même au XXe siècle, par exemple, Łukasiewicz, logicien polonais, a essayé de donner une version moderne, en quelque sorte, de la syllogistique d'Aristote. Et encore aujourd'hui, vous trouvez des travaux, là aussi dans l'école hollandaise de logique, des tentatives, disons, de reconstitution de la syllogistique sur la base de principes, disons, qui seraient des principes syntaxiques, donc des énoncés ou des exposés axiomatiques de la syllogistique aristotélicienne. Donc, pour résumer ce que j'ai dit, Aristote a esquissé cette approche axiomatique, mais ne l'a pas menée à bien, enfin, complètement à terme.
Moi, j'aurais voulu savoir si... Bon, déjà, peut-être en deuxième question sur le transformationnel, tout d'abord.
Oui.
Vous dites tout à l'heure que vous n'en direz rien. Et en premier lieu, sur la comment dire, c'est en deux temps. Déjà, sur la désambiguisation, je ne sais pas si c'est comme ça, oui. Des énoncés, est-ce qu'il n'y a pas une perte de pouvoir expressif en tranchant pour l'un ou l'autre par rapport à la phrase initiale. Et je ne me souviens plus de ma deuxième question. Peut-être que ça va revenir.
D'accord, si elle revient, il faut la poser. Donc sur la question de qu'est-ce qu'on appelle grammaire générative transformationnelle, revenons à la grammaire générative, en fait. Ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle syntaxe générative ou grammaire générative, c'est le genre de système de réécriture de ce genre, d'accord. Vous partez d'une catégorie, d'une lettre symbolique P, et vous allez la remplacer par ces deux catégories, et puis de proche en proche, jusqu'à arriver en fait à une phrase complète. C'est ce que donne la structure, d'accord. Maintenant, à ma connaissance, ce qu'on appelle grammaire générative transformationnelle, donc sans être spécialiste en fait des détails de l'évolution de la linguistique chomskienne, c'est une version ultérieure de la théorie chomskienne, c'est-à-dire que non seulement on veut des grammaires qui puissent dériver les énoncés, mais Chomsky a fait remarquer que même ce genre de grammaire, dont d'ailleurs dans l'article de Pour la science, je dis que les linguistes aujourd'hui continuent à considérer que ça permet de décrire adéquatement la grammaire de la plupart des langues naturelles. Mais même en dehors de ça, Chomsky avait des arguments de principe contre ces grammaires. Et il pensait que, par exemple, pour bien rendre compte des expressions de quantité, par exemple, il faut avoir des arbres syntaxiques qui seraient plus complexes, dans lesquels il y aurait certains mouvements, par exemple, de constituants. C'est-à-dire que on part d'une forme, ici, comme intergrammatum observe un chien, et on se rend compte que le constituant un chien, par exemple, eh bien, devrait se déplacer au sein de l'arbre. Et ça pour des raisons qui sont justement des raisons qui ont à voir avec votre deuxième question, c'est-à-dire la question de l'ambiguïté. C'est-à-dire que si j'en viens à la deuxième question, j'espère que ça répondra mieux à la première question. Un énoncé comme un professeur interrogera chaque étudiant. C'est un énoncé qui est, ça correspond à une suite de sons, d'accord, ou de phonèmes plus exactement, que vous entendez. Il se trouve que cet énoncé, vous le comprenez, et il s'avère que cet énoncé est ambigu. C'est-à-dire que vous pouvez le comprendre tantôt comme signifiant qu'il y a un professeur en particulier, le même, qui va interroger chaque étudiant, ou bien pour chaque étudiant, il y a un professeur qui va l'interroger. Et ce qu'a cherché à faire Chomsky, c'est à dire, bon, s'il y a cette ambiguïté, elle doit exister au niveau de la syntaxe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un arbre syntaxique pour cet énoncé, il y a deux arbres syntaxiques. Mais la syntaxe ne peut pas se contenter de donner deux arbres syntaxiques, elle doit rendre compte du lien qu'il y a entre ces deux arbres syntaxiques. D'où l'idée de transformation, d'accord ? C'est-à-dire l'idée de rendre compte de la correspondance qu'il peut y avoir entre certaines structures syntaxiques. Et ça, je l'ai passé sous silence, par exemple, lorsque j'ai donné l'exemple d'un très grand homme observe un chien, qui, à ma connaissance, n'est pas... Enfin, sauf erreur, il n'y a pas d'ambiguïté ici, j'ai pris des quantificateurs qui font que ça n'est pas ambigu. Mais disons que si j'avais choisi l'exemple d'avant, d'accord, c'est-à-dire un professeur interrogera chaque étudiant, j'aurais dû construire deux arbres syntaxiques, et dans les versions ultérieures du travail de Chomsky, eh bien on cherche, une fois de plus, à mettre en correspondance les arbres. Et il ne suffit pas d'avoir une grammaire qui, disons, permettrait de dériver telle forme et telle autre. Ce qu'a cherché à faire Chomsky, c'est rendre compte de façon beaucoup plus fondamentale encore du lien qu'il y a entre ces différentes dérivations syntaxiques. Si vous m'interrogez, peut-être, c'était la troisième question, donc là, je vous repasse avec les questions.
Elle est revenue.
D'accord. Donc, je vais peut-être ajouter une quatrième question, mais sur la notion de forme logique, par exemple. C'est justement ça, le projet de Chomsky. C'est montrer que si, par exemple, la forme logique, disons, un énoncé comme un professeur interrogera chaque étudiant, c'est ambigu, il y a deux formes logiques, disons, différentes, ça ne suffit pas de dire qu'il y a deux formes logiques. On veut un moyen d'expliquer que ces formes logiques soient en correspondance l'une avec l'autre. Maintenant, il y avait encore un dernier point dans votre question, c'était est-ce qu'il n'y a pas, disons, une perte à désambiguiser l'énoncé ? Non, il n'y a pas de perte, parce qu'une fois de plus, ici, il y a un de ces deux énoncés qui est logiquement plus fort que l'autre. Donc vous pouvez considérer que dans certains contextes, il y a par exemple un professeur interrogera chaque étudiant, il y a une forme, disons, telle que vous l'entendez, il y a une forme qui sera saillante dans un contexte. Donc il y a un filtrage en quelque sorte au niveau de l'interprétation qui explique que peut-être vous sélectionnez cette forme plutôt que celle-ci ou l'inverse. D'accord ? Mais ça c'est un filtrage qui serait pragmatique.
Par ouais, justement c'était la question, c'était est-ce que ce type de formalisation, de découpage syntaxique peut aller avec d'autres approches grammaticales ou plutôt... d'autres approches peut-être sémantiques qui donneraient un pouvoir expressif sans partir d'une décomposition syntaxique immédiatement, par exemple contextuelle, environnementale ou alors est-ce que ça les exclut ?
Non, je pense que ça n'exclut rien, simplement il y a deux choses en fait. D'un côté il y a l'idée d'analyser les énoncés, de montrer que les énoncés ont une structure par constituant et ça il me semble que quelque analyse du langage qu'on propose, aussi raffinée qu'elle soit, c'est-à-dire même si elle prend en compte des facteurs pragmatiques dont je n'ai pas parlé, c'est-à-dire le contexte, par exemple, j'en ai pas parlé, au départ, il faut rendre compte du fait que ce que nous entendons, ce sont des phrases, et ces phrases ont une structure. Et si, par exemple, cette phrase est ambiguë, il faut rendre compte du fait qu'elle est ambiguë. Donc, il ne s'agit pas de... Ce genre d'analyse n'exclut pas du tout d'être enrichi. D'accord ? C'est ce que vous suggérez, il me semble. Mais en revanche, moi, je n'imagine pas, et je pense que, a fortiori, d'accord, les gens qui se placent dans le cadre chomskien et ce qui a suivi, n'envisagent pas qu'on puisse donner une analyse qui serait d'emblée une analyse pragmatique, qui fasse l'économie d'une analyse par constituant. Ça, non. Ça ne paraît pas possible. Il faut certainement enrichir l'analyse syntaxique et sémantique, mais on ne peut pas, à mon sens, avoir une analyse pragmatique qui se passerait d'une analyse par constituant. Et là encore, il y a le travail des linguistes consiste à aller, beaucoup plus à l'intérieur, de la phrase, d'accord. Là aussi, il y a des analyses morphologiques qui cherchent à voir si les mots, là aussi, ont la même structure, puis phonologique, d'accord. Donc tous ces niveaux sont imbriqués. Et il ne s'agit pas d'imaginer que le niveau le plus intégré pourrait faire l'économie des niveaux enchâssés.
Donc le mouvement vers le plus petit, qui était un petit peu le fil conducteur, elle est toujours dans une décomposition plus pointue, ne rencontre pas un moment, enfin ne rentre pas en opposition à certains moments avec d'autres logiques. Non, c'est pas.
Je suis pas sûr de bien entendre cette question, mais disons
mais c'est pas grave.
Si je la reformule quelqu'un... une fois de plus, il n'y a pas. Si l'entreprise de la linguistique formelle consiste à rendre compte de la façon la plus complète possible de la production d'énoncés doués de sens et de la façon dont on les interprète, d'accord, production et interprétation, eh bien, il faudra intégrer tout un tas de dimensions dont je n'ai pas parlé ici, d'accord, les aspects pragmatiques, donc tout ce qui est le contexte, le dialogue aussi, l'interaction entre les agents, etc. Mais faire cela, ça n'est pas du tout contradictoire. Je veux dire, c'est une entreprise qui est complémentaire de l'entreprise de plus bas niveau, en fait, que font les syntacticiens ou bien, je veux dire, les phonologues, par exemple, ou les gens qui font de la morphologie. Merci.
Bien, on va peut-être s'arrêter là.
Dernière question.
Il y avait une dernière question. Oui.
Ça me semble, c'est déjà une certaine limitation de l'analyse logique formelle des langues naturelles, que cette logique formelle, c'est toujours que ça concerne valeur de vérité, c'est toujours qu'on s'est annoncé. Tant que beaucoup ce qu'on dit, c'est pas annoncé dans le sens logique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de vrai et faux. Il y a les questions, il y a exclamations, et grande partie de paroles, disons, normales, c'est rien de voir avec vrai et faux. Par contre, bien sûr, grammaire, ça marche toujours, et dans quel sens peut-être quelques analyses formelles, c'est encore possible, même s'il n'y a pas de questions de vrai et faux. Et je voudrais juste voir comment ça marche, disons, vous parlez d'analyse freudienne, et après cette grammaire formelle. Est-ce que la notion de grammaire formelle est, disons, plus générale dans ce sens, qui ne concerne pas ces questions de vérité?
D'accord. Donc ça, la question porte plus généralement sur le lien qu'il y a entre la syntaxe et la sémantique. C'est-à-dire la syntaxe, effectivement, on peut se contenter, il semble qu'on puisse se contenter d'une analyse du langage dans laquelle tout ce qu'on chercherait à avoir, c'est dériver de façon formelle l'ensemble des énoncés grammaticaux d'une langue donnée. Donc expliquer qu'on ait cette suite de mots et pas, disons, celle qui serait tout simplement la suite inverse, d'accord ? Chien 1, observe, homme, grand trait 1, ou tout ce que vous pouvez imaginer de nom grammatical. D'une part, et de l'autre côté, la sémantique, c'est effectivement l'analyse de la signification. Bon, en réalité, les deux analyses font cause commune, d'accord, marchent main dans la main. C'est-à-dire que pour avoir une analyse par constituant, il faut déjà, disons, un minimum de notions de sens. En particulier, si vous reportez à cet énoncé, dont je n'ai pas cherché à donner la structure grammaticale ou les structures grammaticales, pour dire que l'énoncé est ambigu, et ça n'importe quel syntacticien l'entend tout de suite, eh bien, il faut déjà qu'il ait calculé que l'énoncé pouvait avoir deux sens différents. D'accord ? Dans le cas de... maintenant, pour ce qui est des analyses frégéennes, à proprement parler, la logique frégéenne, Frege voulait une langue caractéristique, au sens où Leibniz l'entendait, même si, paraît-il, Leibniz n'a jamais utilisé l'expression stricto sensu. Mais c'est-à-dire, ce qu'il cherchait, c'est un formalisme qui permette justement d'éviter les pièges du langage ordinaire. D'accord ? À la rigueur, Frege n'a pas contribué autant que ça dans la deuxième partie de l'idéographie, qui est là la tentative pour, sur la base de la logique des prédicats, d'essayer de construire l'arithmétique. Il s'interroge relativement peu, en fait, sur les notions sémantiques de vérité, de fausseté, qui vont, comment dire, qui seront thématisées beaucoup plus tard, en fait, hein, essentiellement par Tarski, dans les années 30, de façon formelle. Néanmoins, on peut dire que Frege fait déjà, en fait, mais travaille déjà en mettant en parallèle l'analyse syntaxique et l'analyse sémantique, d'accord ? Il a une notion informelle de vérité, une notion informelle de ce qui deviendra un modèle ou une structure d'interprétation, mais c'est déjà évidemment présent dans le compte-rendu qu'il fait des énoncés d'Aristote, par exemple. D'accord ? Il dit qu'on peut les réécrire, on peut rendre compte des liens de dépendance logique qu'il y a, mais ça, c'est déjà faire de l'analyse sémantique, en fait. Les textes, c'est ce qui est très remarquable chez Frege, c'est que bien que Frege ait cherché avant tout, comme mathématicien, à, en quelque sorte, perfectionner le langage des mathématiques, il a contribué, y compris dans d'autres textes, hein, d'accord, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, comme le texte sur le sens et des notations en particulier, il a contribué aussi à l'analyse des aspects pragmatiques du langage. Donc, presque malgré lui, en quelque sorte, il a ouvert la voie à, aux analyses qui sont ensuite devenues le travail de Montagu et les travaux des linguistes contemporains. Et en fait, à la fin de l'idéographie, il disait lui-même qu'il cherchait, en fait, il pensait que la distinction entre fonction et argument était promise à beaucoup d'avenir, autant d'une certaine façon que la distinction entre, entre sujet et prédicat.
Ce que je veux dire, par exemple, si je prends votre exemple, où est le professeur ? Voilà. Question. Apparemment, cette sorte de formalisme juste ne permet pas de donner aucun, disons, formalisation, parce que c'est toujours annoncé. Est-ce qu'on parle de sémantique ? Est-ce qu'on parle
que
de
veut
syntaxe ?
Dire où est le professeur, en fait, hein ? Voilà, c'est-à-dire, où est l'individu, professeur ?
Ok, j'ai cette phrase de langue naturelle. Où est le professeur ? Voilà.
Ah,
après,
d'accord,
on pense
c'est la phrase.
Qu'est-ce que sorte d'analyse on peut faire. Et si je ne me trompe pas, disons, cette sorte de moyen, ce n'est pas possible. C'est toujours, il faut faire toujours une annoncée qui est vraie ou faux.
Ah, d'accord, non, c'est une autre question.
Par contre, le grammaire, c'est quand même. Ça marche toujours, même pour les...
Oui, d'accord. Non, je comprends, d'accord, ça y est, je comprends mieux. Donc j'en viens à... D'accord. Vous demandez, en quelque sorte, vous dites, c'est très bien. Les syntacticiens, ils n'ont pas seulement une théorie des énoncés déclaratifs, ils ont aussi une théorie des énoncés interrogatifs, comme « Où est le professeur ?» Ils ont aussi une théorie des énoncés impératifs, ils s'intéressent à toutes sortes de phénomènes qui sont extrêmement fins et pour lesquels on n'a pas encore de bonne analyse sémantique. Bon, j'ai une réponse partielle, c'est que dans le cas des énoncés interrogatifs... par exemple, la grammaire de Montagu a été étendue dans les années 80 pour rendre compte des questions. D'accord ? Donc non seulement on peut construire un arbre syntaxique, mais essayer de donner une valeur logique à la notion de question dans le formalisme qu'a donné Montagu. Donc idem aujourd'hui sur les impératifs. Il y a beaucoup de travaux sur les impératifs, sur le lien entre impératifs. Donc tous ces énoncés qu'Aristote réservait à la rhétorique, d'accord ? Tout ce qui est impératif, tout ce qui semble être du côté des actes de langage, d'accord ? Eh bien, on peut en rendre compte, non seulement sous les aspects syntaxiques, ça c'est ce que vous dites, mais aussi sous les aspects sémantiques. Donc ça, c'est la meilleure réponse que je puisse vous faire. C'est que certes, les syntacticiens ont dans leur, aujourd'hui dans leur bagage, dans leur cartable, tout un tas de phénomènes pour lesquels on n'a qu'une théorie très partielle de la signification du point de vue formel, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas progressé, en fait, au-delà du champ des énoncés déclaratifs. Il reste du travail, ça c'est sûr.